Mohamed à côté, bonjour.
Bonjour, monsieur.
À quel titre avez-vous participé aux négociations qui ont permis de libérer les quatre derniers otages d'Arlit?
C'est le président de la République, monsieur Issoufou Mahamadou, qui m'a mandaté pour négocier la libération des otages. À partir de la mi-juin 2013, j'ai mené tout du début à la fin.
Qui était votre interlocuteur, côté français?
Côté français, nous n'avons pas d'interlocuteur attitré. Moi, à la fin de chaque mission, je rendais compte au président, en présence de ses services compétents. Et puis, je suppose qu'entre les services, ils échangent des infos.
Est-ce que vous avez eu des contacts avec Pierre-Antoine Lorenzi?
Oui, au tout début, avant mi-juin, parce qu'il était prévu qu'il fasse le travail que faisait M. Gadoulé.
Un premier négociateur?
Oui, un premier négociateur qui n'était plus négociateur. Donc, Pierre-Antoine Lorenzi a voulu reprendre sa place. Il avait l'appui du ministre de la Défense français. Mais, parce qu'on avait prévu une mission entre les 12 et les 14 juin 2013 avec M. Lorenzi, mais le directeur général de la DGSC s'était opposé fermement à la présence de M. Lorenzi dans la mission.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, selon la DGSE, les renseignements extérieurs de la France, Pierre-Antoine Lorenzi n'a joué strictement aucun rôle dans la libération des otages.
Je vous explique. Donc, finalement, quand le directeur général de la DGSE s'est opposé à sa présence dans la mission, finalement, M. Lorenzi m'a appelé pour me dire qu'il se retire de la mission et il m'a souhaité bonne chance. Il disait qu'il le fait pour l'intérêt de la mission, pour que la mission réussisse. À partir de ce moment, sur le terrain, il n'a participé à aucune opération de négociation. Aucune.
Et auparavant, vous disiez qu'il était mandaté par le ministère français de la Défense.
En tout cas, le ministre de la Défense l'a recommandé au président Issoufou, qui était à ma présence d'ailleurs, qu'il devrait reprendre en fait le rôle que jouait Jean-Marc Gadoulé à l'époque.
Justement, est-ce que vous aviez été informé des premiers contacts établis avec ACMI par Jean-Marc Gadoulé, qui donc était mandaté par Areva pour négocier la libération des otages avec la bienveillance de la DGSE?
Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai rencontré les djihadistes avant M. Gadoulé. Je les ai rencontrés précisément en octobre, mi-octobre 2010, soit un mois après le rap d'Arlit. Gadoulé, lors de mon second voyage, à la fin décembre 2010, qui à l'époque, on m'avait dit qu'il y avait un Français qui était venu 2 semaines avant mon deuxième voyage et qui était reparti, mais qui était mandaté uniquement par Vinci. Moi, après, je suis revenu plusieurs fois, donc je suis effectivement au courant de ce qu'il faisait Gadoulé là-bas. Mais je ne suis jamais rentré dans les négociations proprement dites, parce que j'ai promis, enfin, on a convenu avec les djihadistes que je suivrai de loin, mais que je n'aurai pas les détails de ce qui se faisait.
Jean-Marc Gadoulé vous accuse aujourd'hui d'avoir, vous et Pierre-Antoine Lorenzi, récupéré les fruits du travail qu'il avait lui-même initié à l'époque.
Il se trouve que, lors de mon premier voyage dans cette affaire des otages, en septembre 2010, j'ai rencontré une personne que Gadoulé a rencontrée après. Mais cette personne n'est pas la propriété de M. Gadoulé. C'est quelqu'un à qui a mis la confiance et qui sert un peu de relais avec les gens qui voulaient négocier le sort des otages occidentaux qui sont entre leurs mains. C'est des gens qui étaient là depuis au début des années 2000, avec la prise d'otages des touristes allemands et d'autres qui ont suivi. Donc ce n'est pas la propriété de M. Gadoulé.
Donc ce que vous dites, c'est que vous avez fait vous-même votre propre travail.
Exactement, j'ai fait mon travail. Au contraire, moi, je suis arrivé avant Gadoulé. 2 mois avant, j'ai rencontré les gens. Il vient après, il dit que je lui ai pris son réseau. Ce n'est pas la propriété de M. Gadoulé, mais la propriété des personnes. Ça appartient à tout le monde. Celui qui vient, qui est sérieux, ils vont le prendre au sérieux. La preuve, c'est qu'avec beaucoup des gens que Gadoulé a contactés, moi, je n'ai jamais eu de problème, parce que je n'ai pas intervenu dans leurs affaires, je n'ai pas cherché à me mettre à la place de Gadoulé. J'ai suivi de loin.
Sur la rançon versée à ACMI en échange de la libération des otages, on parle de plus de 30 millions d'euros. Est-ce que vous confirmez ce montant? Est-ce que vous étiez là lors de la remise de l'argent?
Moi, j'ai donné ma parole que je ne parlerai jamais de certaines affaires qui sont passées sur le terrain. Ça, je ne le ferai jamais.
Sans parler du montant, est-ce que vous étiez bien là lors de la remise de l'argent au ravisseur? Est-ce que vous pouvez dire s'il a été versé intégralement ou s'il manquait de l'argent?
Je vais vous donner une chose. Quand les djihadistes demandent quelque chose et que vous avez convenu ensemble que cette chose-là leur sera donnée, si vous ne tenez pas parole, vous n'aurez jamais, jamais, au grand jamais, ce que vous cherchez, à savoir la libération des gens qui sont évacués.
S'il y a eu la libération des otages, ça veut dire que la contrepartie, la rançon, a été versée.
Ça, c'est vous qui le dites. Mais ce qui est certain, c'est moi qui ai parti chercher les otages. Je les ai ramenés à Niamey avec les services de renseignement du Niger. On a pris l'hélicoptère du Niger, on les a ramenés à Niamey.
Pierre-Antoine Lorenzi dit que les combattants d'ACMI ont mis une journée à compter l'argent et qu'ils l'ont fait sous vos yeux.
Je laisse la responsabilité à Pierre-Antoine Lorenzi de dire ce qu'il veut. Moi, je ne parlerai jamais de ça.
Des sources au sein des services français de renseignement, notamment l'ex-directeur de la DGSE, Alain Juillet, affirment que l'argent de la rançon n'est pas arrivé intégralement à ACMI et que cela a mis Abdelkarim El Targhi, l'un des chefs d'ACMI, dans une fureur noire.
Alain Juillet ne sait pas de quoi il parle. D'abord, les quatre otages d'Arlib ne sont pas détenus par Abdelkarim. Ils sont détenus par l'équipe, les jeunes gens qui ont succédé à Abou Zeid. C'est différent, parce que c'est Abou Zeid qui les a pris d'Arlib. Donc quand une équipe de djihadistes prend des otages, elle les garde jusqu'au bout. Alors c'est quoi le rapport entre l'équipe d'Abou Zeid et celle d'Abdelkarim? Ça n'a rien à voir. Chacun joue sa partition, mais quelque chose qui est donné à Abou Zeid, il les partage avec les autres. Si c'est donné à Abdelkarim, il les partage avec les autres. Que ce soit en natif, que ce soit en matériel roulant, il se partage tout. Donc je ne vois pas d'où viendra les problèmes.
Pierre-Antoine Lorenzi affirme qu'une rallonge de 3 millions d'euros, en plus de la rançon, devait servir à payer des intermédiaires et que cet argent supplémentaire, promis donc par lui, a été bloqué par les services français. Est-ce que c'est bien ce qui s'est passé?
Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai appelé Pierre-Antoine Lorenzi. Je lui dis que je trouve qu'il a manqué de courage de s'assumer. Au lieu de nous mettre nous en avant, qui n'avons jamais rien réclamé, ni à lui, ni à quiconque, il parle de cette affaire des rallonges. Donc moi, je suppose que c'est dans sa stratégie de défense, parce qu'il a accusé d'avoir détourné de l'argent à partir de 2013. Donc je pense que pour montrer patte blanche, il dit qu'il y a de l'argent qui n'a pas été payé, etc., etc. En tout cas, personnellement, je n'ai jamais demandé de l'argent à qui que ce soit.
Et cet argent pourrait-il avoir été demandé par d'autres membres de l'équipe que vous avez montée, autre que vous-même?
Il n'y a aucun membre de mon équipe, des gens avec lesquels j'ai travaillé, qui a accès à M. Lorenzi. Il ment. S'il le dit, il ment.
Donc, selon vous, aucune frustration financière ne pourrait avoir motivé l'enlèvement puis l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon 4 jours après la libération des otages d'Arlit?
Aucune. Moi, je pense plutôt que la presse a tellement rabâché les oreilles à tout le monde sur le montant faramineux de la rançon, ça a dû donner des idées à quelques-uns. Ils ont trouvé ce qu'il y a sous la main et puis voilà, ça a mal tourné. ACMI, pour faire des otages, ils ont des spécialistes pour ça. Donc, c'est pas un truc d'amateur. Moi, je pense que plutôt c'est un rapt d'opportunité et qui a mal tourné.
Plusieurs sources affirment qu'en plus de la rançon, les négociations pour la libération des otages d'Arlit prévoyaient des libérations de djihadistes d'ACMI emprisonnés à Bamako. Est-ce que c'est le cas?
Je ne sais pas quelles sont vos sources, mais en tout cas, c'est possible, mais moi, je ne suis pas au courant.
Vous n'avez jamais entendu parler de cette clause?
Non, jamais.
Plus précisément, Sidan Aguita, un cadre d'ACMI, un chef de Katiba impliqué dans l'enlèvement puis l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, a voulu faire libérer 2 de ses neveux qui étaient détenus à Bamako, une libération qu'il n'a pas obtenue. Est-ce que, selon vos informations, il est possible qu'il ait alors décidé de s'en prendre aux 2 journalistes parce qu'il n'avait pas obtenu cette libération?
Je ne crois pas à cette hypothèse parce que c'est de Aguita. Il avait des otages occidentaux entre ses mains avec les autres Katiba.
Vous pensez à Serge Lazarevitch?
Il y avait Lazarevitch, mais il y avait d'autres occidentaux aussi entre leurs mains. Ils ne sont pas malheureusement libérés jusqu'à présent pour certains.
Vous parlez donc, des otages de Tombouctou, sud-africains, voilà, suédois.
Voilà, exact. Et je ne vois pas pour quelle raison, s'il voulait une monnaie d'échange, je ne vois pas pour quelle raison il va chercher d'autres.
Est-ce que Sidan Aguita a été impliqué à un moment ou à un autre dans les négociations qui ont permis la libération des otages d'Arlit?
Moi, je ne l'ai pas rencontré. Par contre, après, quand j'ai été négocier la libération de Serge Lazarevitch, je l'ai bien rencontré, oui.
Et c'est à ce moment-là qu'il a d'ailleurs obtenu la libération de ses neveux.
Oui, puisque vous l'avez, tout le monde, c'était officiel, ça. Pas besoin de les cacher.
Mais donc, il ne faisait pas partie de votre équipe au moment des négociations pour les otages d'Arlit?
Non. C'est pas, ça veut dire que vous ignorez, c'est que les djihadistes ne font pas partie de mon équipe. Moi, j'ai des gens qui sont serrés, d'ailleurs, certains n'ont aucun rapport avec les djihadistes. C'est des civils, certains des Kidal, certains souvent du Niger, certains de partout. Les djihadistes font attention quand même aux gens qui viennent les voir. Donc, comme ils ont confiance, je viens avec souvent certaines personnes qui ne connaissaient pas. Mais ça ne posait pas de problème. Mais ce n'est pas des djihadistes.
On a parlé de rançon, on a parlé de libération de prisonniers. Est-ce qu'il y avait peut-être d'autres termes dans le marché qui a permis de libérer les derniers otages d'Arlit?
Non, je ne le vois pas. Lesquels? Vous pensez à quelque chose?
Non, c'est une question ouverte.
Non. Non, je pense à rien, moi.
Et vous parliez des civils de votre équipe. Est-ce que vous pensez que vous puissiez avoir été trahi par des membres de votre équipe, que certains d'entre eux auraient pu décider de s'en prendre ensuite à Ghislaine Dupont et Claude Verlon?
Non, pas du tout. Les civils avec lesquels je suis, ils sont connus de tout le monde. Ils n'ont rien à se rapprocher, c'est pas des djihadistes. Et je sais là où ils sont tous.
quand le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, dit aux familles de Ghislaine Dupont et Claude Verlon « ils ont été trahis ». Selon vous, à qui est-ce qu'il peut faire allusion?
À ça, je n'en sais rien.
Sans répondre à sa place, évidemment, est-ce que ça évoque quelque chose chez vous?
Non, pas du tout. Moi, je maintiens que je suppose que c'est un rap qui a mal tourné parce que, comme tout le monde disait que pour libérer les otages, il a failli verser telle somme, ça a dit donner des idées à beaucoup. Alors, c'est des gens qui attendaient une opportunité, ils l'ont saisi et puis c'est tout.
Baye Agbakabo est un djihadiste d'ACMI qui travaillait pour Sidan Agita. C'est lui qui dirigeait le commando qui a enlevé puis assassiné Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Qu'est-ce que vous savez de lui?
Moi, je ne le connais pas. J'ai entendu parler de lui une fois il y a longtemps, mais pour moi, il n'était pas important.
On parle souvent de lui comme d'une petite main, comme d'un voleur de voiture.
Oui, bon, vous savez, il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça, après, qui deviennent djihadistes. Il y en a plein.
Selon vous, est-ce qu'il aurait pu prendre lui-même l'initiative de monter l'enlèvement de Ghislaine Dupont et Claude Verlon? Ou est-ce que c'est une décision qui venait de plus haut?
Plus haut, j'en doute, parce que moi, je pense que si c'est plus haut, les gens auraient dû préparer leurs coups de manière plus professionnelle, comme ils ont l'habitude de le faire. Mais je pense qu'il a pris la décision tout seul, ou en tout cas avec des gens inexpérimentés.
Qu'est-ce que vous savez des liens de Baye Agbakabo et de la France?
Non, je n'en sais rien.
À votre connaissance, il avait déjà été arrêté, il était surveillé. Est-ce que vous avez été amené à en discuter parfois avec certains interlocuteurs?
Non, je n'ai jamais parlé de lui à quiconque ou quelqu'un m'a parlé de lui, non, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que quand les Français ont repris la ville de Kidal, ils ont interrogé énormément des gens qui étaient dans les mouvements djihadistes. Mais je ne sais pas s'ils en faisaient partie ou pas. Rien d'exclus dans la ville, on ne sait pas.
Officiellement, les autorités françaises ne font toujours pas le lien entre le dossier des otages d'Arlit et celui de l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Et vous, est-ce que vous faites ce lien?
Moi, je ne le vois pas, mais bon, on ne sait jamais. Je ne le vois pas. Quand vous dites que les gens qui ont enlevé et assassiné vos collègues, ils sont les mêmes qui gardaient les otages. Ça reste à prouver, parce que la katiba de Abdel Karim est différente de celle d'Abou Zeid. Les otages, les quatre d'Arlit, étaient en main de la katiba d'Abou Zeid jusqu'à la fin.
On sait par exemple que Al-Targhi ou encore Sidan Agita, dont on parlait tout à l'heure, ont été impliqués dans les deux affaires.
C'est connu de tout le monde que le crime a revendiqué l'assassinat. Mais il peut les revendiquer de manière opportune. Comme ça fait mal aux Français, il a un gars contre les Français, donc voilà, il le revendique.
Par ailleurs, Baye Agbakabo, qui était le chef du commando qui a assassiné nos deux collègues, travaillait pour Sidan Agita, qui est lui aussi impliqué dans l'enlèvement des otages d'Arlit.
Il peut être impliqué dans l'alignement des otages d'Arlit, mais c'est pas lui qui les garde. Lui, il a sa propre katiba aujourd'hui.
Donc, selon vous, les katibas sont tellement hermétiques les unes les autres que ce qui concerne l'une ne concerne pas l'autre?
Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que pour la garde des otages, c'est pas n'importe qui garde les otages, même parmi les djihadistes. C'est des gens auxquels les chefs ont une confiance absolue. Et souvent, ce sont des volontaires kamikazes, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à se faire exploser en cas de problème. Et je ne suis pas certain qu'un type comme Baye Agbakabo puisse accéder à ce statut-là.
L'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, dans la foulée de leur enlèvement, sans qu'il y ait eu de demande de rançon, est toujours un motif d'interrogation. Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Est-ce que vous croyez, par exemple, à l'hypothèse du véhicule qui tombe en panne et du coup de panique des ravisseurs?
Je pense que si c'était des professionnels qui ont l'habitude d'élever des gens, qui ont enlevé une femme. En tout cas, jusqu'à pas longtemps, les djihadistes n'assassinaient pas des femmes. Ils ne les exécutaient pas, ils voulaient toujours s'en débarrasser en premier. Donc, moi, quand on m'a dit qu'elle a été assassinée, je me suis posé des questions. Je me suis dit que c'est sans doute quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Et peut-être qu'il a paniqué, qu'on les reconnaisse, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne me paraît pas que ce soit une action directe des djihadistes.
Une grande partie des documents de l'armée française sur ce dossier est toujours déclassifiée. Des informations ne sont donc pas transmises de l'armée à la justice. Selon vous, pour quelles raisons?
Je n'en sais rien. Il faut être souvent raisonnable, ne pas sombrer aussi dans la théorie du complot, que peut-être l'État sait quelque chose qu'il a caché. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est vrai que quand il n'y a pas de réponse à des questions comme ça, on peut se poser énormément de questions.
Mohamed Akoté, merci.
Merci à vous.